Bonsoir, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail hier, 1er mai, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a déclaré que le gouvernement a réalisé la plus grande partie des revendications contenues dans le cahier de charges de l'intersyndicale nationale du Congo, à savoir l'amélioration des conditions de travail tant dans le secteur privé que public. Pour sa part, l'intersyndicale nationale du Congo continue d'exiger l'application stricte du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en sigle. Comment analyser cette situation? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous accueillons Guy Kolela, président de la Confédération syndicale du Congo. Guy Kolela, bonsoir.
Bonsoir.
Polydor Tangeli, bonsoir. Analyste et expert en matière de travail, également secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Et enfin, Magloire Balouti, consultant en droit de travail. Magloire Balouti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous l'aurez sans doute relevé chez vous, le ministre du Travail et l'intersyndicale nationale du Congo, les deux principaux protagonistes du sujet de ce soir, sont absents de notre débat ce soir. Tous nos efforts pour les joindre sont restés sans succès. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le travail, c'est tous les jours, mais le monde entier a décidé que le 1er mai de chaque année, c'est la fête du travail. Et en République démocratique du Congo, le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale s'est exprimé hier. Et pour lui, le gouvernement congolais a réalisé la plus grande partie des revendications contenues dans le cahier des charges de l'intersyndicale nationale du Congo pour l'année 2018. Lambert Matuku a aussi affirmé que le président de la République met un accent particulier sur l'emploi des jeunes. On l'écoute dans un extrait proposé par Alain Hirung.
En réponse au cahier des charges de l'intersyndicale nationale du Congo de l'année 2018, le gouvernement a réalisé, en dépit des difficultés conjoncturelles de l'époque, le gros des revendications y contenues, à savoir, premièrement, l'amélioration des conditions de travail, tant dans les secteurs privés que publics. Deuxièmement, la prise du décret sur l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en sigle dans les secteurs privés dont le taux a été fixé à 7 075 francs congolais par jour pour les manœuvres ordinaires partant de 1630 francs congolais. Aussi a-t-il été signé le protocole d'accord avec l'intersyndicale de la fonction publique sanctionnant les négociations paritaires gouvernement-syndicat du secteur public qui accordent une augmentation salariale sur les 3 ans 2019-2020-2021 payable à partir du mois d'avril 2019 pour le premier palier.
Le débat est donc lancé. Nous aurions voulu associer à ce débat les deux principaux protagonistes de notre sujet de ce soir, à savoir le ministre du Travail ou son délégué et l'intersyndicale nationale du Congo pour qu'ils donnent un peu plus de détails sur leurs positions respectives, mais ils n'ont pas été joignables. Mais parmi les intervenants de ce soir, Guy Kolela, président de la Confédération syndicale du Congo, quel est votre analyse de la situation posée?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que quand on doit évaluer, on doit chiffrer. On part d'un chiffre X à un chiffre Y. Et quand on dit que les conditions de travail ont été améliorées, je pense que là, ce sont des intentions. C'est vraiment des intentions. Si le SMIG a été négocié, c'est encore des intentions. Ça a été appliqué dans quelle entreprise? À quel taux? Je pense que tout ça, ce sont des questions. C'est comme cela, à travers ma bouche, la Confédération syndicale du Congo avait dit hier dans son speech au stadium que rien n'a été fait au niveau du ministère en ce qui est de tout ce qui est évoqué, conditions de travail, SMIC. Mais... Et même là, quand on doit évoquer les 3 ans, parce que ça doit entrer en application au mois d'avril, ça a été bien dit, au mois d'avril, nous sommes au mois de mai, je peux poser la question, est-ce que les fonctionnaires, au mois d'avril, ils ont déjà vu quelque chose, une amélioration? Je pense que that is the question.
Mais Guy Kolela, est-ce que vous ne tombez pas vous-même un peu dans le péché que vous déplorez tout à l'heure? Vous relancez le ministre en disant qu'il aurait dû donner des exemples et des chiffres, des choses palpables, mais vous-même vous dites aussi que rien n'a été fait, ce n'est qu'une phrase.
C'est une phrase.
Qu'est-ce qui devait être fait? Qu'est-ce qui devait être fait parmi les revendications?
Oui, mais le SMIC au niveau des entreprises publiques, ça devrait être appliqué. Parce que là, on est au niveau de la FEC en train de négocier pour voir comment ce sera appliqué. Il y a des impacts. Il y a la Caisse nationale de la sécurité sociale où on a revu des taux. Vous n'êtes pas sans ignorer. Et il y a le SMIC d'autre part. Je pense que la rationalité voudrait que les partenaires se retrouvent pour qu'il y ait le juste milieu et que chacun se retrouve. C'est comme cela, je dis, on était au niveau des intentions, mais ce n'est pas encore fait.
Guy Kolela, est-ce que vous n'êtes malheureusement pas l'intersyndical national, mais vous êtes la confédération syndicale, vous le savez peut-être sans doute. Pouvez-vous nous dire quand même quel est le contenu, quelle est l'intégralité du cahier de charge de l'intersyndical national?
Vous savez, nous sommes à Kinshasa. Nous savons que pour tout bon syndicaliste, même si moi, je parle au nom de la Confédération syndicale du Congo parce que l'intersyndical, il y a l'amalgame, mais le SMIG a été négocié pour que ce soit à 3 dollars. Jusque-là, je vous dis bon nombre d'entreprises. Je vous dis bon nombre de l'informel. Je vous dis bon nombre des enseignants. Si vous voulez réduire à quelques entreprises publiques qui existent, j'ai dit non, il y a l'informel qui existe, il y a le petit commerce qui existe, il y a des enseignants qui existent qui jusque-là ne sont pas encore à ce niveau de l'application du SMIC. D'autre part, il y a la protection sociale où il fallait universaliser la protection sociale au niveau de tous les Congolais. On ne l'a pas encore fait. Ce sont des intentions. Il y a la politique salariale qui jusque-là, ce sont encore des intentions. Il y a l'enseignement, la gratuité au niveau fondamental, c'est-à-dire au niveau primaire. C'est encore au niveau des intentions. Je peux étendre comme ça. Quand on parle de conditions de travail, il y a le travail de nuit, il y a le travail des femmes, il y a le travail des handicapés, il y a le repos hebdomadaire. Vous savez vous-même, au niveau du commerce, qu'est-ce qu'il y a? Je prends juste...
Allô?
Ça passe pour le repos hebdomadaire. Tout ça, ce sont des questions qui ont été posées.
Allô, Guy Kolela, apparemment...
On
la...
va obtenir des solutions.
Guy Kolela, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, nous allons vous poser une question abondante, mais vous allez essayer de faire un effort pour le résumer. Quel est le contenu, justement, de chaque point? Vous dites que ce n'est qu'au niveau des intentions, mais la Confédération syndicale, comme les autres syndicats, qu'est-ce que vous avez mis dans votre cahier des charges concernant le SMIG? Vous parlez de 3 dollars. Le gouvernement a l'intention d'approcher les 5 dollars parce que c'est calculé en francs congolais. Le SMIG officiellement publié, c'est 7000, si je ne me trompe pas, 575 francs congolais. Voilà, c'est entre 3 dollars et 5 dollars. Quel est le montant qui, selon vous, pourrait satisfaire le travailleur congolais concernant le repos? De quoi est-il question exactement? Qu'est-ce qui est revendiqué? Concernant la protection sociale, qu'est-ce qui est revendiqué? La politique salariale dont vous parlez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour ne s'arrêter que là.
Oui, je reviens au niveau du SMIC, c'est juste lapsus pour te dire que 5 dollars c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ça vous le savez. Parce que un tiens vaut deux que tu l'auras. 5 dollars c'est bon, c'était juste lapsus. 5 dollars c'est bon. Mais je vous dis que ce n'est pas suffisant. Si vous voulez prendre le travailleur des entreprises publiques, le travailleur contractuel en RDC par rapport au, au, aux publications du Bureau international du travail, vous verrez que ça ne fait pas 10%. Je suis élégant. Donc, le reste, c'est dans ce qu'on appelle l'informel. C'est comme cela que j'ai dit, c'est oui qu'on applique le SMIC, mais on ne l'a pas encore appliqué. On est au niveau des intentions. Mais quand vous prenez l'informel, vous ajoutez, vous verrez que c'est une goutte d'eau dans l'eau. C'est comme cela, nous nous disons que ça n'a pas encore marché. Vous parlez de la protection sociale, l'universalité. Nous voulons quoi? Que tout Congolais, quand il a un problème de soins médicaux, qu'il aille dans un centre. Ce sont des mécanismes qu'il faut définir tout ça. Ça a été défini, mais jusque-là, c'est encore au niveau des intentions. Là, je suis clair et je suis vrai. C'est au niveau des intentions. Celui qui va au marché, ou bien celui qui est sur le commerce, parce que dernièrement, il y avait grogne sur le commerce. Celui-là, quand il tombe malade, il va où? Il fait quoi? C'est ça. C'est comme cela, nous disons qu'il nous faut une protection sociale universelle. Je peux étendre ça même au niveau de la politique salariale.
Merci.
Vous remarquerez que... Allô?
Merci Guy Kolela. Nous reviendrons à vous pour que vous continuiez de nous renseigner davantage. Le temps de donner la parole à Magloire Balouti, consultant en droit de travail. Magloire, oui. Plutôt nous allons d'abord donner la parole à Polydor Tangeli, analyste et expert en matière de travail, également secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Que savez-vous de ce débat et du niveau de satisfaction, des revendications, des conditions de travail dont le ministre a parlé dans notre sujet de tout à l'heure?
Merci pour l'invitation et merci pour la parole accordée. Il me faut d'emblée dire que la fête du 1er mai cesse d'être une fête. Ça devient une tribune où des revendications sont présentées, des dénis, des négations, des affirmations sans contenu précis sont portées à la connaissance du public et ça frise même du mépris vis-à-vis du travailleur qui devait être honoré à ces jours. Donc, dans d'autres émissions, nous l'avons dit, il faut qu'on cesse de considérer cette journée comme une journée de moquerie vis-à-vis du travailleur. Revenons à la problématique de revendications qui ont été, qui ont connu un certain satisfecit de la part de l'intervention gouvernementale.
En fait, là, vous reprenez le ministre ou vous êtes d'accord avec lui qu'il y a eu des avancées importantes réalisées dans ce secteur?
Pour intervenir de manière horizontale, je dois ici saluer le fait que le gouvernement pose certains pas. Et retirer à Monsieur Guy Koukou les propos disant qu'il s'agit des intentions.
Guy Kolela,
puisque lorsqu'il y a déjà des textes qui existent, c'est-à-dire il y a un pas vers l'aboutissement des résultats qu'on veut atteindre. Mais cependant, la démarche gouvernementale est biaisée. Elle est biaisée à ce sens que le gros d'intervention du gouvernement reste sur papier. Et le niveau d'exécution de toutes les résolutions qui ont été prises est en descente de 20%. Et on ne peut pas être fier de cela durant une solennité comme la fête du travailleur. J'en viens au problème du SMIG.
Avant d'arriver au SMIG, est-ce que vous pouvez nous aider à soulever les points que vous considérez comme étant l'essentiel des revendications et nous indiquer lesquels ont pu remplir les 20% dont vous parlez ici?
Prenons le cas du SMIG. Le SMIG, par exemple, était à 3%, à 3 dollars. Mais le niveau d'exécution n'était même pas à 50%. Les gens s'en plaignaient. Mais pour satisfaire, pour des raisons de consommation extérieure, on a essayé de les revoir à la hausse.
Au chiffre de environ 5 dollars.
Exactement.
Dont on parle.
Sans tenir compte des conditions d'application sur terrain. Et vous voyez, c'est du saupoudrage. Du saupoudrage. On va vendre dans des textes internationaux qu'on est à 5 dollars.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu exagéré parce que le gouvernement avait aussi indiqué que ça se ferait en 3 paliers. Le premier palier devrait avoir lieu en juin, aurait dû avoir lieu en juin 2018. Ouais. Le deuxième, c'est celui dont nous parlons au mois d'avril qui est passé. Et le dernier, c'est au mois de juin.
Vous êtes d'accord avec moi en disant aurait, qui se pose un sérieux problème de mise en œuvre. Donc, ce que nous reprochons au gouvernement,
donc pour vous,
c'est d'avoir
ni le premier ni le deuxième palier
n'ont été exécutés. Un bon cadre de planification. Il ne suffit pas de lever des options face aux revendications, qui sont des revendications sociales, qui sont des revendications qui proviennent des électeurs. Vous comprenez? Qui viennent des électeurs vis-à-vis de qui vous avez une certaine redevabilité. Donc, des options doivent être mûries en amont. Donc, c'est comme qui dirait, on a mis la charrie devant le bœuf.
Mais Polydor Tangeli, mais est-ce que les négociateurs, les différents syndicats qui ont été associés à ces discussions, n'ont-ils pas aussi été un peu complaisants? Parce que si on commence, ne fût-ce qu'avec le SMIG, même 5 dollars, s'il était appliqué tous les jours, si je fais une arithmétique banale, sur les 30 jours du mois, même si c'est pas comme ça que le salaire se calcule, on aura maximum 150 dollars.
Voilà pourquoi.
Et personne ne peut vivre avec 150 dollars.
Voilà pourquoi
avec
je disais, la festivité du 1er mai devait être une opportunité de recadrage. Le recadrage du triangle du monde du travail, où on essaye de repenser même la qualité des négociations. Qui négocie avec qui? Comment est perçu, comment se perçoivent les co-débatteurs durant les négociations? Puisqu'au fait, lorsque la qualité des négociations, le contenu des négociations ne rejoint pas les valeurs de valorisation des ressources humaines, ça nous offre ce genre de résultats. Ça nous offre ce genre de résultats et on reviendra à un autre 1er mai pour dire encore que voilà, le SMIG est resté théorique, il n'est pas resté pratique. Pourquoi ne pas repenser la planification des questions relatives au travail?
Alors, vous êtes analyste et expert en matière de travail, donc c'est votre domaine. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour atteindre les 7575 francs congolais, autour de 5 dollars. Nous venons, vous et moi, de relever que même si on calculait arithmétiquement, 150, ça ne pourrait faire vivre personne. Est-ce que il est envisageable d'arriver dans les plus brefs délais à un SMIG qui correspond à un salaire décent qui peut faire vivre quelqu'un? Ce serait combien le SMIG alors dans ce cas?
Il ne me revient pas ici de vendre des illusions, puisque la problématique du salaire répond au principe d'un salaire réaliste et réalisable par rapport au contexte socio-économique du pays. Donc, je recommande plutôt une approche holistique. Une approche holistique qui tient compte, comme l'a dit Guy Colella, de la problématique du secteur informel. Puisqu'au fait, il a un impact sur le secteur formel. Et lorsqu'on veut formaliser, qu'on tienne compte des pesanteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, le 5 dollars peuvent être réalistes et réalisables. Mais faut-il qu'en amont, avant de lever l'option, qu'il y ait un travail bien fouiné qui permet de faire à ce que la mise en œuvre soit une mise en œuvre qui ne porte pas de discrédit vers le gouvernement. Qui ne porte pas les discrédits vers le gouvernement, surtout que le SMIC de 3 dollars aujourd'hui n'est pas un motif de fierté pour le gouvernement.
Merci.
Et pourquoi évoquer le SMIC de 5 dollars?
Merci Polydor Tangeli, nous reviendrons à vous aussi tout à l'heure. Magloire Balouti, consultant en droit de travail. Le gouvernement de la RDC dit avoir résolu grandement les conditions de travail au pays. Êtes-vous un peu comme l'intersyndicale, la confédération syndicale et Polydor Tangeli, qui eux disent que le ministre n'a pas dit vrai?
Oui, écoutez, je pense que ça ne sert même pas à rien de, ça ne sert à rien de discuter là-dessus, parce que ce que le ministre a dit hier, ça ne reflète pas du tout la réalité, et je pense que c'est quand même, ce n'est pas à son honneur. Voyez-vous, parce que si aujourd'hui, vous avez, Nous avons mes co-débatteurs que je salue tout à l'heure. Excusez-moi.
Magloire Balotti
pour dire un peu, c'est à la mode, maintenant j'ai connu un vide. Voilà. Donc, mes co-débatteurs l'ont bien dit et je les salue ici. Monsieur le journaliste, réfléchissons un peu à une chose. Soyons terre à terre, parce que comme vous dites souvent, cette émission est pédagogique. Promenez-vous à travers le pays ou à travers la ville de Kinshasa, là où vous êtes. Est-ce que vous sentez vraiment l'impact de ce que le ministre a dit? Si ça avait été réalisé, on aurait senti ça dans la société. Mais on ne le sent pas. Alors, il faudrait un peu qu'on soit réaliste dans ce qu'on dit, sinon on se couvre de ridicule. Il y a eu un protocole d'accord pour lequel on a abouti à un SMIC de 7,75 dollars. Mais je constate qu'en fait, il n'y a pas un cadre de concertation où on aurait fait le suivi de ce protocole d'accord. Et tant que ça ne se fait pas, je suis désolé, mais on arrivera toujours à des textes qui sont faits, comme a dit mon co-débatteur tout à l'heure, pour la consommation externe. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que, de bonne foi, le gouvernement, dès le départ, n'avait pas pris la chose au sérieux ou avait prévu de ne pas appliquer les promesses qu'il était en train de faire à l'employé congolais?
Écoutez, je ne vais pas prêter des intentions au gouvernement. Je pense qu'il a été de bonne foi quand ils sont entrés en négociation. Mais maintenant, il s'est retrouvé buté à certaines difficultés, je ne sais pas lesquelles, par rapport à l'applicabilité de ces textes. Et c'est ça qui complique un peu les choses, voyez-vous, parce que nous sommes un pays où, comme je dis toujours, nous avons les plus beaux textes du monde, mais le problème se pose au niveau de l'applicabilité. Mon co-débatteur tout à l'heure a dit, il y a un problème de moyens et ils sont coincés quelque part. Il faudrait peut-être revenir à des négociations pour trouver une voie de sortie à ce problème qui n'a pas encore trouvé un début de solution. Il y a des solutions sur papier, mais sur le terrain, il n'y a pas de solution, monsieur le journaliste.
Alors, Magloire Balotti, le SMIG est très important, mais parmi les autres revendications, les énumérations ici ne sont pas exhaustives, mais parmi les autres revendications, il y avait notamment la politique salariale, la protection sociale, les repos et les conditions de travail de nuit des femmes, etc. Vous êtes aussi un peu comme Polydor Tanguely, un expert de la question de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme contenu dans politique salariale, dans protection sociale et le travail dispersé?
Écoutez, il y a, en matière de protection sociale, il y a plusieurs choses qui doivent être revues. Je risque de m'étendre là-dessus. Il y a plusieurs choses qui risquent d'être revues et ça doit aussi faire l'objet de négociations. En matière de politique salariale, comme a dit mon prédécesseur tout à l'heure, je ne vais pas revenir chaque fois sur lui, mais il y a des choses qui sont très importantes, notamment le salaire de nuit, le salaire des femmes, le salaire des handicapés et tout. Il a déjà cité là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce sont des choses sur lesquelles on doit beaucoup insister pour que ce soit appliqué. Or, pour le moment, vous avez des gens, à ce moment ici, des gens qui travaillent dans les supermarchés, ils ne touchent pas le salaire de nuit, mais ils quittent à 22 heures. Or, la loi est claire, les salaires de nuit doivent commencer à partir de 18 heures. Mais ces gens n'ont pas de prime de nuit. Est-ce que va-t-on continuer jusqu'à la fin des temps comme ça? Non. Les textes doivent être appliqués. Les textes existent. C'est un problème d'applicabilité, comme je l'ai dit.
Magloire Balotti, avez-vous l'impression que le gouvernement congolais, l'État congolais, au moment où nous parlons, a les moyens de pouvoir améliorer les conditions de travail de l'employeur congolais, commençant par le SMIC, mais aussi les autres questions évoquées, notamment la gratuité de l'enseignement? Avez-vous l'impression que, dans un plus bref délai, sans langue de bois, le gouvernement peut faire quelque chose, peut changer quelque chose de la situation qu'il y a déjà en ce moment?
Le gouvernement a les moyens. Si le gouvernement a les moyens, n'avait pas les moyens, le ministre n'aurait pas pris cette responsabilité de dire à la face du monde qu'ils ont atteint leurs objectifs. Donc le gouvernement a les moyens, c'est un problème juste de mauvaise foi. Excusez-moi le terme, pour être un peu plus doux, c'est juste de la mauvaise foi.
Alors Magloire Balotti, revenons avant de passer la parole à ce point du SMIG. Avec vos précédents co-débatteurs, nous sommes arrivés à constater que même si on faisait une arithmétique simpliste, 150 dollars le mois, ça n'aide pas grand-chose dans les problèmes quotidiens. Est-ce que le SMIG à 5 dollars, ce n'est pas aussi un peu toujours l'illusion?
C'est de l'illusion. Bon, je ne sais pas sur quelle base on avait négocié le protocole, d'accord, parce que moi, je vois mal vraiment les gens vivre avec 150 dollars au moment où Vous avez des maisons dans la ville de Kinshasa où vous êtes pour un, deux pièces ou une pièce, on paye à 100 dollars, déjà il reste 50 dollars. Il y a le minerval des enfants qu'on doit payer, il y a les factures, il y a les charges, toutes les charges inhérentes à tout cela. Mais avec 150 dollars, c'est vraiment impossible. Je pense qu'il faut repenser et refaire ces négociations de fond en comble, et cette fois-ci de manière tout à fait sérieuse, pour qu'enfin on puisse aboutir à un chiffre qui soit réaliste pour tout le monde.
Ok, merci Magloire Balouti. Le temps de passer la parole pour pouvoir écouter ce commentaire qui nous vient de Kolwezi.
Adonis Kamungwa, depuis Kolwezi, je trouve que les déclarations du ministre sont fondées et ne couvrent aucune prétendue faiblesse de l'État face à la concrétisation de certains projets qui cadrent avec l'emploi au Congo. Je crois que toute œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection et l'État congolais en tant qu'organisation humaine ne peut pas solutionner tous ces problèmes au même moment comme par un coup de bâton magique. Il faut aussi comprendre que le pays est dans sa phase de rétablissement après une vaste crise multiforme qui l'a rendu épave pendant plusieurs années antérieures.
Guy Kolela, tout à l'heure, Magloire Balouti est convaincu que l'État a les moyens pour améliorer les choses. Cet auditeur a l'impression que non.
Mais, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je partage le point de vue de Polydore et de Magloire et je vous dis, mais les 100 jours, l'argent est venu d'où? Pour commencer à boucher le trou à gauche, à droite, les 100 jours, l'argent est venu d'où? Le pays a l'argent. Nous sommes un scandale géologique, on le dit, mais nous sommes aussi un scandale humain. Mais l'humain, s'il n'a pas la bonne foi, s'il n'a pas la bonne volonté d'appliquer, mais c'est le drame que nous vivons dans notre pays. Je suis très fier pour dire, et nous l'avons dit dans notre discours, que ce folklore du 1er mai doit s'arrêter. On ne doit plus continuer à venir là en villégiature, on raconte des histoires qui ne sont pas vraies. On doit rester réaliste, on doit avoir les deux pieds sur terre. Comment vit le Congolais? Ne prenez pas une poignée de main d'une dizaine de personnes, d'une centaine, pour étendre ça à plus de 80 millions d'habitants. Là, je suis désolé. Fournissons des efforts, arrêtons de dire toujours la crise. Mais ceux qui roulent carrosse, ceux qui ont des millions, ceux qui dépensent par jour 150 dollars pour acheter les grillades, et l'autre qui doit avoir 150 dollars pour gérer sa maison, les soins de santé, le logement, l'hôpital et tout ça. Mais c'est un paradoxe auquel il faut mettre fin. Alors, c'est un paradoxe, mon cher, qu'il faut mettre fin.
Alors, Guy Kolela,
soyons solidaires entre nous.
Guy Kolela, puisqu'il faut évoquer les choses de manière concrète et pratique, voilà, le gouvernement a fait le bilan que nous sommes en train d'examiner dans cette émission. Tous les syndicats, en fait, ceux qui se sont exprimés, l'intersyndical, vous-même et ceux qui se sont exprimés jusqu'à présent, sont opposés au bilan du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer cette question, pour faire avancer ce dossier? Concrètement, vraiment, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement, étant donné que vous êtes convaincu que l'État a les moyens, oui. Comment l'État devrait-il faire pour pouvoir résoudre le problème du SMIG et les autres points contenus dans les revendications?
Je crois que le gros, que l'on soit d'abord réaliste, parce que le salaire ne peut pas partir du néant qu'on projette. Voyons d'abord la production qu'il y a au pays. Aidons aussi la population à trouver des palliatifs pour être soulagée. Si on peut universaliser la protection sociale, c'est un pesanteur qui va aider la population.
Universaliser, c'est-à-dire on ferait quoi?
Universaliser, c'est-à-dire pour tout travailleur, même les indépendants, parce qu'au niveau de la caisse de la sécurité sociale, qui met seulement des mécanismes, il y a des indépendants qui peuvent aussi cotiser pour que quand il y a survenance d'une maladie ou quoi, il va dans un centre, on le soigne. C'est question qu'on ait la bonne volonté, que l'on soit créatif. ne restons pas dans tout ce qui a existé par le passé. Je suis dans l'entreprise, je suis dans ceci. Parce qu'il faut développer aussi l'entrepreneuriat, il faut développer le coopératif. Tu vois, la question elle est multiforme, mais que d'abord dans les entreprises publiques et privées, que l'État, on ne négocie pas avec l'État. Quand on a déjà négocié avec un partenaire, on a dit que c'est 5 dollars. Sans faute, sans faille, on applique les 5 dollars.
Le reste,
on verra.
Président de la Confédération syndicale du Congo, Guy Kolela, sur la question, par exemple, de la gratuité de l'enseignement, oui. Très concrètement, dans les jours à venir, dans les mois à venir, quelle est la proposition que vous faites au gouvernement pour que cela se concrétise?
J'ai dit ceci. Il y a beaucoup de coulages. On nous parle toujours de coulages. Mais la solidarité, c'est quoi? Nous sommes dans un pays riche, mais qu'on récupère tout ce qu'il y a comme coulage, qu'on finance l'enseignement primaire, pour qu'il y ait la gratuité, ça va nous éviter aussi des coulounas. Mais qu'est-ce que nous voulons? Ne pensez pas qu'on va se mettre en ligne pour dire que voici l'argent que l'État avait recouvré, prenez. Non! L'État s'occupe de l'enseignement fondamental. Il finance cet enseignement, il paye bien les enseignants avec l'argent de l'impôt, et nos enfants bénéficieront de la gratuité de l'enseignement, et un enseignement de qualité, ça fera que le pays aura des intellectuels.
Polydor Tangeli, nous restons à Kolwezi pour écouter aussi cette réflexion de cet auditeur.
Dominique Moussaou, à partir de Lubumbashi, tant que les autorités de notre pays ne comprendront pas que le rendement des travailleurs dépend du niveau de motivation sur les plans économico-social, nous n'allons jamais connaître une croissance considérable dans n'importe quel secteur. On ne peut jamais contrôler celui qu'on ne paye pas.
Voilà, Polydor Tangeli.
À ma qualité de psychologue, je donne 100% raison à ces messieurs qui évoquent la problématique de la motivation des travailleurs en milieu professionnel, puisque celui qui est motivé vous offre le meilleur de lui-même, et en offrant le meilleur de lui-même, il y a une certaine productivité, il y a un effet d'entraînement au plan social et économique, et ça concourt au développement du pays, et la redistribution sociale s'ensuit. Mais je voudrais revenir sur l'intervenant de Kolwezi qui a évoqué le cadre moyen. Le gouvernement a assez de moyens. Et vous savez, son premier moyen, c'est quoi? C'est la volonté. Son deuxième moyen, c'est la détermination. Son troisième moyen, c'est l'action. Mais pourquoi nous sommes en face des personnes qui ont des volontés mais qui ne sont pas suivis d'une certaine détermination et des actions conséquentes? Nous sommes dans une situation d'externalisation de l'emploi. Quelle est l'action que devait mener le gouvernement pour pouvoir valoriser tous nos frères qui sont en train de croupir?
Donnez-nous donc la réponse. Quelles sont les actions que devait mener le gouvernement?
C'est par exemple ce qui a été fait au Katanga, où vous opérez ici comme employeur ou vous n'opérez pas. Voilà ce que vous devez payer et vous mettez en place des moyens d'action, des dispositifs qui vous permettent de voir les résultats être réalisés.
Ça, c'est ce qui concerne les investisseurs.
Exactement. Nous sommes ici en face du gouvernement qui, non seulement a le rôle d'offrir un cadre juridique à travers le Code du travail et la ratification d'autres conventions, mais aussi de asseoir une administration du travail et une inspection du travail solide. Mais le bras stratégique que sont l'administration du travail et l'inspection du travail sont des canards boiteux. Vous voulez avoir quel résultat? Donc, il faut une certaine redynamisation. Nous avons co-débattu ici avec le ministre Bahati sur la réforme de l'inspection générale du travail. On en est où? Ce sont des actions qui se limitent. D'autres ministres ont succédé. Ils devaient poser un pas. Mais toutes ces réformes, le gouvernement a l'obligation d'action. Mais avec quels outils? Allez à l'inspection du travail, voyez ce que un inspecteur du travail qui ne sait pas agir. Pourquoi? Puisqu'il y a la politisation du monde d'emploi. Les employeurs cherchent des soutiens politique et lorsque l'organe chargé de permettre au gouvernement d'agir pour le bonheur du travailleur, qui doit être honoré le 1er mai, cet inspecteur du travail est passé pour un va-nu-pied et il est même empoché par l'employeur, qui d'emblée obtient des permis d'exploitation biaisés en amont, ne remplissant pas les conditions et emploie les travailleurs dans des conditions peu recommandables. Donc voilà, le gouvernement a assez de moyens qui sont des moyens que je peux considérer des moyens humains, mais qui ont des implications financières, puisque lorsqu'il y a une détermination d'action, ça aura des effets multiplicateurs.
Consultant en droit de travail, Magloire Balouti, pour vous, ce commentaire qui nous vient de Mbandaka.
C'est Patrick Mbouli, depuis Lubumbashi, dans la province de Haut-Katanga. La situation des travailleurs congolais dans tous les secteurs de la vie nationale reste précaire, dans un pays où les écarts sociaux restent criants et 80% du budget de l'État est englouti dans le fonctionnement des trois institutions, dont le Parlement, gouvernement et président de la République. Et si le ministre de l'Emploi affirme que le gouvernement a réalisé la plus grande partie des revendications contenues dans les cahiers de charges du syndicat, mais pourquoi ces derniers exigent l'application de ces fameux SMUB, qui du reste est insignifiant par rapport au coût élevé de la vie actuelle? Je pense que pour améliorer les conditions de vie des travailleurs congolais, le gouvernement doit initier une véritable réforme dans les secteurs de l'emploi en RDC, où le nombre de travailleurs ne sont pas connus, même dans les secteurs publics où il y a plusieurs travailleurs fictifs, et cela profite aux réseaux mafieux bien organisés.
Magloire Balouti.
En fait, l'intervenant, vous avez dit qu'il est de Mbandaka, mais je vois qu'il est de Lubumbashi. Il a en bref ramassé beaucoup de réalités qui se passent sur le moment. Il faudrait en fait que le gouvernement fasse une fois de plus des états généraux sur la question. Ensuite, il faudrait que le gouvernement revienne encore sur des négociations plus réalistes pour enfin qu'on puisse avoir des chiffres qui sont proches de la réalité dans lesquels les travailleurs vont se retrouver. Sans ça, on ne trouvera pas de solution à tous ces problèmes.
Et concernant, par exemple, le débat autour du niveau du SMIG, vous êtes d'accord avec moi que le débat autour de la hauteur du salaire est un débat assez vieux, hein, en République démocratique du Congo.
C'est un débat qui date de plusieurs années.
Voilà.
On parlait du SMIG. Du temps de Mobutu, on parlait du SMIG. À un certain moment, on est arrivé jusque pour la fonction publique aux accords de Mobutu qui ont été mordés, qui n'ont jamais été appliqués. Avec Moïse Laurent-Désiré Kabila, on est revenu avec le SMIC, avec le précédent président, on a parlé encore du SMIC, et ça n'en finit pas, parce que jusque-là, c'est un problème de mauvaise foi. S'il y avait juste une bonne foi de la part des gouvernants, je pense qu'on n'en serait pas à parler aujourd'hui de SMIC encore pour le moment, ou encore plus à des chiffres dérisoires qui sont de 5 dollars par heure. Ça, je pense pas que ça serait...
Alors, réaliste,
voilà.
La question que j'allais justement vous poser, vous êtes convaincu que l'État a les moyens, mais le débat reste aussi vieux. Vous venez vous-même de brosser l'histoire. Il y avait de la volonté, il y avait des accords, mais ça n'a jamais évolué. Mmh. Qu'est-ce qui vous permet de croire que cette fois-ci, malgré votre détermination, vos convictions qu'il y a de l'argent, ce problème sera résolu?
Écoutez, nous accordons un crédit jusque-là qui n'est pas encore entamé au nouveau gouvernement qui va entrer en fonction. D'ici là, on ne sait pas parce que je constate que nous allons déjà vers le quatrième mois sans gouvernement, donc nous commençons à ressembler à la Belgique. Nous attendons à ce que le nouveau ministre qui va entrer puisse ne pas faire la même chose que les gouvernements précédents et nous lui accordons ce crédit-là jusque-là, mais sans lui accorder un blanc-seing pour que enfin les textes puissent être respectés. Parce que les textes sont là. Il suffit juste de les adapter et vous verrez que les choses vont marcher comme sur des roulettes.
J'ai posé la question tout à l'heure à votre prédécesseur sur les stratégies qu'on pourrait mettre en place, notamment sur la question de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire concrètement?
Écoutez, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Ce n'est pas sur un débat de quelques minutes qu'on pourra discuter de toutes ces stratégies. C'est une histoire où, par exemple, le triangle peut se mettre en place et discuter peut-être pendant plusieurs jours des stratégies à pondre
en application pour que cette stratégie de gratuité de l'enseignement puisse être mise en application.
Magloire Balouti, pouvez-vous nous donner quelques pistes, quelques orientations? Il est question d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent.
Quelques pistes, quelques orientations, vous savez, par rapport à la gratuité de l'enseignement.
Oui, notamment sur ce point.
Sur le point de la gratuité de l'enseignement, mais écoutez, la Constitution déjà consacre l'enseignement primaire, la gratuité de l'enseignement primaire. Eh bien, c'est simple, comme l'ont dit les présidents tout à l'heure, il suffit de mobiliser des ressources, de les mettre à la disposition des personnes concernées, et à ce moment-là, vous verrez que l'enseignement, la gratuité de l'enseignement sera appliquée.
Alors, c'est votre mot de la fin, Magloire Balouti. Pour le moment, les deux camps opposés sont un peu dans un dialogue de sourds, si on peut utiliser ce mot. Qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour renouer déjà ces assises et pouvoir proposer, entre autres, les solutions que vous évoquez?
Que chaque parti mette de l'eau dans son vin et qu'on revienne à des négociations plus réalistes.
Polydor Tangeli, c'est aussi votre conclusion. Les deux camps en sont à se discuter, à ne pas être d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Je crois que le Congo a besoin de bénéficier de l'expérience d'autres pays qui ont cessé d'évoluer dans la tripartite et ils sont aujourd'hui à la tripartite plus. C'est-à-dire, le triangle a été ouvert aux ONG, aux experts indépendants qui ont apporté des contributions. Ça aura permis à notre pays de se débarrasser de ces carcans qui ne lui permet pas de faire éclore le monde du travail comme ça s'est fait dans d'autres pays. Je crois qu'il faut bénéficier de l'expérience d'autres pays.
Merci. En quelques mots, Guy Kolela, votre conclusion.
Merci beaucoup. Je pense qu'on a un problème d'un réel. Il faut qu'il y ait la volonté politique quand on a signé des accords d'appliquer ces accords. Et j'ai dit, on peut y aller avec la gratuité de l'enseignement pour améliorer la qualité de l'émetteur et du récepteur, que tout le monde se retrouve.
Merci Willem Lungamba, Guimate, Kelin Koutebele, Kipe Lamondo, m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Merci de votre attention. Au revoir.